Canal Académie.
La plateforme de podcast de l'Institut de France.
Passerelle des arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.
Peinture, sculpture, gravure, cinéma, 13 artistes ont eu la chance de passer une année entière à Madrid, à la Casa de Velázquez, pour y développer de nouveaux projets au contact de la culture espagnole. Au terme de cette résidence, ils viennent présenter le fruit de leurs recherches, de leurs trouvailles et de leurs tâtonnements peut-être, dans une exposition au pavillon Comtesse de Caen, grâce au soutien de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes en compagnie de deux d'entre eux, Nadja Albucay, qui va nous parler de ses gravures, née de son expérience douloureuse dans les prisons syriennes, et puis Mathilde Lestiboudois pour ses peintures, qui mettent en scène des espaces imaginaires inspirés du palais de l'Escorial. C'est l'occasion aussi de revenir sur la vocation de la Casa de Velázquez, avec notre troisième invitée, sa directrice, Nancy Berthier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer, nous allons parler de cette tradition du voyage qui est très ancienne chez les artistes, le voyage qui sert à se former, à construire sa carrière. Comment est-ce que vous l'envisagez? Nous allons commencer par nos artistes. Mathilde Lestiboudois, quelle est la place du voyage dans votre carrière?
Oui, alors je pense que le voyage pour la plupart des artistes, c'est quand même une place très importante parce qu'on a pour beaucoup une mémoire quand même visuelle, une inspiration visuelle, et tout lieu différent, tout pays nouveau va nous apporter une grande inspiration, va nous nourrir, va nous mener vers de nouvelles pistes artistiques. Donc oui, je pense que c'est une expérience très intéressante pour le métier d'artiste. Oui.
Une expérience qui n'est pas toujours un choix, Nadja Albucay.
Et la première voyage que je fais pour mes études et mes recherches, c'était dans les années 90, quand j'ai terminé mes études à Damas. Je suis venu en France, je suis resté 3 ans. À l'École de Beaux-Arts, peut-être c'était trop enrichissant et même trop choquant de voir le décalage entre les arts, ce que j'ai appris en Syrie et ce que j'ai vu ici, au niveau de liberté, au niveau de la quantité de musées. J'ai l'impression que c'était trop pour moi. Pour cela, je suis rentré au bout de 3 ans. Mais cette fois, je sais pas, est-ce qu'avec l'âge ou les expériences que j'ai vécues, que je sens, je suis plus capable d'assimiler ou de recevoir ou de pouvoir digérer ce que je voyais dans les voyages. Surtout maintenant, l'Espagne, cette année, c'était... Je suis content de ce voyage, en fait.
Nancy Berthier, est-ce que vous pourriez nous remettre cette expérience dans un contexte plus large, vous qui êtes professeur des universités, dans cette longue tradition européenne de voyage d'un pays à l'autre, notamment en Italie et peut-être en Espagne, qui est votre sujet de prédilection?
Alors, plus que de voyage, enfin, ou du moins, c'est une modalité du voyage, c'est la résidence, c'est le long séjour que nos institutions offrent. Je dis nos institutions parce qu'il y a évidemment la Villa Médicis qui est la première, 1666, avec cette idée du voyage, mais aussi de la formation au contact d'eux, et puis évidemment de ramener aussi des idées nouvelles et d'avoir ces échanges fructueux, ces collaborations. La Casa de Velázquez est plus jeune, donc 1928.
Bientôt 100 ans.
Bientôt 100 ans. Et a une spécificité que les autres résidences d'artistes n'ont pas, c'est que c'est un endroit où coexistent l'Académie de France à Madrid, résidence d'artistes, et l'École des hautes études hispaniques et ibériques, des résidences de chercheurs. Et la résidence, c'est du temps long. Ce n'est pas simplement un voyage où on va voir peut-être des choses nouvelles, mais pas nécessairement approfondir. C'est vraiment une délocalisation qui, sur un temps assez long, hein, une année pour les artistes, va permettre d'aller plus loin, d'être arrivé. C'est ce qui arrive souvent, c'est ce que je commence à constater. Je ne suis là que depuis un an. D'arriver avec un projet, avec une idée, et puis de repartir avec une perspective qui a terriblement évolué, terriblement, merveilleusement évolué, grâce justement à la fois à cette délocalisation, au fait d'être à l'étranger, et en même temps de la communauté très spécifique que l'on trouve à la Casa de Velázquez avec chercheurs et artistes.
Mathilde Lestiboudois, je vous vois hocher la tête oui. En signe d'un sentiment. Vous vous êtes laissée déplacer par rapport à votre projet initial ?
Oui, entièrement. En fait, le temps long justement de la résidence, je pense que c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un temps de recherche, vraiment de s'installer dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle ville, de découvrir, de puiser un peu dans de nouvelles sources d'inspiration et après de construire vraiment un projet conséquent. Ce que ne permet pas d'autres résidences plus courtes. Et là, on se sent vraiment dans une sorte de nouvelle bulle, en fait, où on va pouvoir construire autour de ce nouveau projet et puis rentrer chez nous au bout d'un an et sentir que voilà, on a évolué, alors qu'on n'est pas juste resté à cette première partie de recherche, mais vraiment, je pense vraiment que pour nous, pour les artistes, ça a tous été un temps d'évolution vraiment conséquent du fait qu'on se soit installé dans un nouveau lieu et qu'on ait pu vraiment creuser notre sujet, vraiment le construire en entier et repartir avec un projet vraiment conséquent.
Par exemple, vous, avec quelle idée étiez-vous arrivé et comment êtes-vous reparti ? Qu'est-ce que vous présentez actuellement au pavillon Comtesse de Caen ?
Alors moi, j'avais dans l'idée, en arrivant à la Casa, d'étudier l'architecture madrilène parce qu'à travers mes peintures, je vais m'inspirer d'architecture que je peux croiser dans mon quotidien ou lors de mes voyages, justement. Et je vais les intégrer par fragments dans mes peintures et les faire dialoguer avec d'autres choses comme des objets ou des formes plus géométriques. Mais l'inspiration première, ça va être l'architecture. Et donc, je voulais m'inspirer en particulier donc, de l'Escorial, qui est un palais royal qui se situe un peu en dehors de Madrid. Et du coup, ça a été vraiment mes recherches qui m'ont portée tout au long de mon année de résidence. Et donc la peinture, le grand format que je montre à l'exposition qui est montrée en ce moment, l'exposition Itinérance, c'est vraiment pour moi une synthèse. Cette peinture-là, je l'ai choisie particulièrement parce que c'est une synthèse de ma résidence à la Casa, parce qu'en fait, c'est à la fois une peinture qui montre une nette évolution dans mon travail, notamment au niveau de la palette des couleurs, qui a beaucoup changé. Et je pense que ce n'est pas anodin, parce que les couleurs qu'on peut rencontrer à Madrid et en Espagne en général sont complètement différentes par rapport à celles qu'on peut trouver à Paris, parce que moi, je suis parisienne. Et en même temps, donc, à l'intérieur de cette peinture, j'y montre donc une sorte de fragment d'arche qui fait à la fois référence à l'Escorial et à la fois donc, au style architectural de la Casa, qui a été construit dans le même style architectural que l'Escorial. Et voilà, pour moi, c'est à la fois une synthèse donc, de mon sujet d'étude et de mon année de résidence à la Casa.
Et Nadja Alboukaï, vous nous avez parlé de votre séjour en France, qui était plus un séjour d'études. Là, cette résidence en Espagne, que vous a apporté ce pays de nouveau, de différent ?
En tant que réfugié et exilé, j'avais apparemment très besoin d'avoir un autre lieu pour avoir une distance, pour comprendre ce qui s'est passé avec moi durant les dernières dix ans. D'arriver en France, le pays que je connaissais, que j'ai de la famille ici, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a protégé. Donc j'avais une deuxième patrie. Et donc le fait d'aller en Espagne, avoir cette distance, de voir de l'autre bout de la Méditerranée et comparer avec ma situation dans l'autre bout, à l'Orient, à Damas, ça m'a laissé le temps de réfléchir et surtout de voir l'histoire que l'Espagne a vécue, surtout dans la guerre civile espagnole durant les années 36 et 39. Et après, c'est la défaite de la révolution par les forces de Franco, sûrement regarder les guerres napoléoniennes et la production de Francisco Goya, accepter l'idée qu'une révolution peut avorter, une population peut être ruinée et rebondir à nouveau. En fait, je me rappelle la première fois où je suis sorti de Madrid pendant cette résidence, c'était avec Fabien Aguayo, la directrice artistique, à la vallée de Los Caídos, là où il y avait le tombe de Franco, une grande basilique. Et ce qui m'a impressionné et choqué, c'est cette structure monstrueuse, gigantesque, construite avec les prisonniers républicains que les forces de Franco ont incarcérés. Et toute cette comparaison avec les prisons que j'ai vécues en Syrie, les anciens prisonniers que j'ai rencontrés en Syrie. J'ai rencontré un prisonnier qui, c'était sa 40e année, et il était réquisitionné à sculpter une sculpture durant les années 80. Et là, j'ai vu les mêmes histoires qui sont réalisées. Et après, le dictateur, il est mort, il est parti, Franco. Et le peuple espagnol, il y avait la Renaissance, la Viva, les années...
Vida.
La Movida, où les Espagnols, ils sont recommencés, ils sont remis debout. Donc ça a vraiment influencé mes dessins et mes gravures, qu'ils étaient pendant les années où j'ai quitté la Syrie, strictement que des témoignages, illustrations avec des compositions plutôt fermées, où j'ai témoigné mes quotidiens en prison. Là, j'ai osé de faire des compositions plus libres. Je suis toujours dans la promiscuité des figures humaines qui vivent ensemble dans un lieu fermé. Mais il y a une sorte de danse, il y a plus d'énergie. Je crois que c'est l'énergie espagnole que j'ai... Je suis content de pouvoir... Je pense que j'ai réussi un peu à la transformer dans mes dessins et mes gravures.
Et sur le travail de la mémoire, vous avez vu en Espagne qu'il est long, douloureux et que le silence parfois perdure.
Oui, oui, oui. Bon, le fait qu'il y avait la loi un peu de silence, de ne pas trop raconter ce qui s'est passé, j'ai pas réussi vraiment à visiter des fosses communes où il y a les disparus. Mais on sent toujours qu'il y a cette mémoire qu'on la trouve dans les musées, de passer à l'Académie royale, voir les gravures de Goya avec leurs plaques, avec les plaques originales. Je crois que ça m'a bien enrichi. En plus, je veux bien parler de lieu qu'on a eu à la Casa, formidable, avec un atelier de gravure qui était où j'ai vécu la plupart du temps là-bas, avec le lieu qui était détruit. La Casa de Velázquez, on nous a expliqué que ce bâtiment a été détruit 8 ans après sa construction. Il était à nouveau reconstruit.
Oui, Nancy Berthier.
À cet égard, là, j'écoutais, je vous écoutais et c'est quelque chose qui revient. Qui revient, c'est-à-dire le passage par Madrid, par la Casa, qui va transformer. En fait, il y a un avant, il y a un après. d'une part, et puis d'autre part, les résonances. La façon, alors donc pour certains, ça va être là la résonance pour Mathilde de ce lieu spécifique qui est l'Escorial, qui est d'ailleurs un style monumental qui a ensuite été copié par le franquisme, un style extrêmement imposant. Et pour Naja, le rapport à l'histoire. Je voudrais raconter ce qui s'est passé cette année avec le compositeur ukrainien que nous avons accueilli en résidence, grâce à une bourse d'ailleurs financée par l'Académie des Beaux-Arts. Donc Adriaan est arrivé alors que nous préparions un projet de lecture dramatisée d'un ouvrage, notre dernière publication, autour de la guerre dans la cité universitaire et à la Casa de Velázquez. Donc la Casa de Velázquez a été reconstruite en partie, mais il y a toute une partie qui contient encore les cicatrices de la guerre, des traces d'obus, enfin, des traces de cette guerre tangible. Et donc, nous avons fait une lecture dramatisée de textes littéraires autour de cette histoire sur notre terrasse. Et Adriaan a fait trois compositions qui ont été intercalées au moment des lectures. Trois compositions sur la guerre. Avec musique électroacoustique, avec notamment une composition merveilleuse, avec des sons enregistrés à Kiev, des bruits de sirènes enregistrés à Kiev. Et dans son discours de présentation, il a dit ce qu'a dit Naja, c'est-à-dire moi, mon pays est en guerre en ce moment, Kiev est en ruine. Et d'être dans cette maison qui a été en ruine à un moment donné, et que ce soit cette maison qui m'accueille et cette maison qui est restaurée et si bien vivante, c'est pour moi de l'espoir.
Comment est-ce que se nourrissent les échanges entre résidents? Quelle est l'ambiance au sein d'une promotion? J'imagine que, comme dans une classe, chaque promotion est unique. Vous, quelle était l'ambiance dans cette année scolaire, Mathilde Lestiboudois?
Je dirais que c'était vraiment un moment de partage unique. Vraiment, on a créé notre petit groupe et on échangeait régulièrement au niveau concernant nos travaux artistiques, mais aussi on a des amitiés qui se sont fondées très 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 proches je trouve que c'est vraiment une expérience unique à la fois professionnelle mais personnelle de ce point de vue-là. Oui.
Moi, c'était génial de voir encore des artistes qui font autre chose que la guerre où je dessinais, la plupart des artistes que je fréquentais, soit des Syriens, c'était plutôt le sujet de la guerre. Et de voir à nouveau d'autres moyens de réfléchir, d'autres problèmes et problématiques dans l'art qui... Ça m'a réfléchit la mémoire et de voir d'autres qui composaient de la musique ou ils font de la vidéo ou la peinture, les couleurs, et puis partager des moments de nourriture, de visite, de musée. Une année inoubliable.
Et puis il y a comme une sorte d'énergie qui se crée entre nous. Voilà, quand tu dis de voir de nouvelles pratiques, de découvrir de nouveaux sujets, on en a souvent discuté avec Naja, vraiment des discussions très intéressantes sur nos pratiques respectives, des questionnements aussi qu'on avait. Donc c'est par rapport au médium que Naja utilise, par exemple, je sais que donc on... Pour la petite anecdote, on était voisins, donc on était tout le temps amenés à se voir. Et il me voyait peindre, et puis ça lui donnait envie de repasser à la peinture. Et puis moi, j'allais le voir de temps en temps en gravure, et puis j'avais trop envie de recommencer la gravure. Enfin, il y a vraiment un échange qui se crée, qui apporte une énergie artistique. C'est, oui.
Et souvent, l'autre artiste voit des fois des choses que l'artiste lui-même n'arrive pas à comprendre. Et personnellement, je dessinais beaucoup. J'avais peur des fois de trop dessiner, que je n'arrivais pas à changer mes formats. Mathilde ou Maxime ou Carmen venaient me dire « Non, mais c'est bien, il faut accumuler. » Donc ça aide à comprendre des choses des fois qu'il y a du brouillard devant nos yeux.
Nancy Berthier, comment est-ce que vous l'avez perçu, cette promotion? C'était aussi votre première année.
Alors, j'ai pris le train en route, en marche plutôt, dans la mesure où je suis arrivée à la mi-janvier 2022. Donc, ce n'est pas une promotion que j'ai accompagnée depuis le début. Mais j'ai immédiatement rentrée dans leur travail, puisque nous avons eu la journée des portes ouvertes qui... d'emblée m'a permis d'aller dans les ateliers. Enfin, je n'attends pas les portes ouvertes pour aller dans les ateliers, mais je respecte quand même leur intimité d'artiste, même s'il m'arrive de me promener dans les jardins et d'aller ici ou là, et puis de discuter avec les uns et les autres. Mais j'ai trouvé que c'était une promotion extrêmement soudée, extrêmement agréable, très diversifiée dans les pratiques. C'est vraiment une des spécificités de nos résidences. Bon, la vie de la Médicis, la vie de la Kujoyama ont aussi cette pluridisciplinarité, c'est-à-dire ces artistes qui ont été formés dans des écoles particulières, des cinéastes, des peintures, enfin, et qui se retrouvent avec des disciplines artistiques très différentes, et de se confronter au regard d'un autre artiste, mais qui n'est pas dans la même discipline, ça permet d'avoir des retours, et puis ça ouvre des portes, je crois.
Et les rencontres avec les chercheurs ici aussi. Moi, j'avais du travail aussi avec des chercheurs d'histoire. Par exemple, Marion Biard, elle travaillait sur le terrorisme dans l'époque moderne. Donc, ça a été un moment d'échanger et de travailler sur la posture du victime moderne, la présentation du victime. Donc, ça m'a... on a pas mal parlé aussi sur le sujet de victime, d'après-guerre... la présentation du victime, le terrorisme. J'ai pas mal parlé avec les chercheurs, en fait.
Et c'est d'ailleurs une de mes... vraiment un des points forts de mon projet pour l'établissement, donc dont ils n'ont pas totalement bénéficié, un peu quand même. Je mets en œuvre ou je favorise les dispositifs qui permettent les rencontres, les croisements entre les artistes et les chercheurs. Et j'ai notamment lancé cette année les petits déjeuners avec trois artistes et trois chercheurs dont on sent que ce sont les directeurs artistiques et directeurs de recherche qui combinent des tables de petits déjeuners. Et on a déjà des projets, des mariages, enfin, au sens artistique et scientifique du terme, qui se sont faits. Et c'est assez fascinant, j'en ai eu un hier, de voir combien il peut y avoir des résonances entre des personnes dont la formation, dont les projets semblent très éloignés et finalement qui vont faire écho.
Alors, ce que vous dites nous intéresse particulièrement ici, à l'Institut de France, dans ce lieu où... cohabitent, mais aussi dialoguent en permanence des artistes, des scientifiques, des écrivains. J'aimerais, comme vous parlez de ce regard porté sur les travaux des uns et des autres, peut-être que tous les deux, qui avaient des univers très différents, Mathilde Lestiboudois et Nadja Aboukaï, que vous livriez votre regard sur les travaux de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Mathilde, par exemple? Comment est-ce que vous la décririez? Qu'est-ce qui vous touche dans cette œuvre, alors que vous avez des univers complètement différents? Je le rappelle à nos auditeurs, du côté de Mathilde, ce sont vraiment des œuvres dans lesquelles on ne voit pas une figure humaine habitée par le vide, avec de la couleur, une forme de délicatesse dans la palette. Du côté de Nadja Aboukaï, sont vraiment des papiers saturés de figures humaines.
Vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est la CASA qui a choisi les deux artistes qui soient voisins, avec la différence vraiment... pour moi, c'était très reposant de voir la manière dont Mathilde travaille. voir l'espace, la, cette ambiance très pure et saine, même à la fois solitaire, certaines anxiétés, mais dans un espace vide, tranquille, une patience, méditation. En même temps, moi, j'étais dans le bruit, bruit, bruit. Il y avait beaucoup de bruit dans mes dessins. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres... T'imagines s'il y avait un autre nageur à côté de moi, il y aurait un séisme peut-être dans le...
Justement, oui, ça s'équilibrait très bien. Ça s'équilibrait très bien. Et, alors moi, pour le coup, j'étais fascinée par la production intense de Naja. Vraiment, on a, même au niveau de la production, on est complètement opposés. Parce que moi, j'ai un travail assez minutieux sur des grands formats. Donc, je mets en général un mois à faire une toile. Alors que Naja faisait 10 dessins par jour. Il imprimait ses gravures avec une énergie folle. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a nourris. Quoi. Ça nous a donné une sorte d'impulsion à tous les deux. Alors pour lui, ça l'a calmé. Moi, ça me donnait envie de travailler, travailler. Donc il y a eu... Voilà, ça s'est équilibré. Et non, ça fonctionnait très bien. Et,
Surtout, moi, je remercie Mathilde d'avoir supporté le bruit de la musique que je faisais parce que j'ai appris à jouer le flûte rouzo. J'avais un autre instrument, donc Mathilde, elle mettait des écouteurs apparemment. En plus, elle supportait l'odeur de la cuisine orientale que je faisais chaque jour.
Mais je pense qu'elle en profitait aussi.
Oui, j'avais le droit à des petits plats de temps en temps. C'est, voilà, c'est le côté personnel de la casa, les liens qu'on peut créer.
Et en fait, bon, là, on a deux personnes, deux univers, mais ce qui est magnifique, c'est que chaque atelier est un monde, un microcosme, avec c'est visuel, évidemment, il y a des odeurs, en fonction, évidemment, des matériaux qui sont utilisés, et on rentre dans un petit monde, et l'atelier d'à côté, ça va être totalement différent, et puis celui encore d'à côté, des personnes qui ont besoin de remplir, d'autres qui ont des espaces, Mathilde, c'était très épuré, c'était très zen, certains qui travaillent de la musique, d'autres sans. Du coup, c'est ces petits univers qui coexistent, mais en même temps qui se rencontrent, parce qu'on a aussi des espaces de sociabilité et un jardin.
Comment ça se passe justement? Chacun a son appartement et son atelier propre.
Oui, voilà. Oui, oui. Oui, en fonction des disciplines, des ateliers qui sont plus ou moins adaptés. Par exemple, les compositeurs et les cinéastes et les photographes ont des ateliers dans le corps du bâtiment parce qu'ils n'ont pas besoin de manipuler. Mais par contre, ils ont des ateliers spécifiques, par exemple un studio de musique, un studio d'enregistrement. Il y a également l'atelier de gravure collectif, en au-delà de chaque atelier appartement. Oui, chaque atelier est un espace personnel de travail et de vie.
Et justement, la gravure, ça a été un aspect très important de votre travail à Madrid, Naja Albucay. Qu'est-ce que ça change de passer du dessin à la gravure?
Il y a le processus de la gravure, que le fait de passer par une plaque de cuivre, et puis cette processus de préparation à un travail sur papier, puis creuser le métal et faire les bains d'acide, les rinçages. Et après, c'est l'impression. J'avais l'impression que c'était une sorte des rites. J'ose pas dire si c'était une prière. Cette incarnation de dessin, de le mettre sur un papier.
Il y a un aspect magique.
Oui. Il y a magique. Mais certainement, c'était assez rituel, qui a un rapport avec la mémoire et le fait de de réciter l'histoire des gens qui sont partis ou les souvenirs qu'on a vécus. Faire un dessin ou peut-être des fois une aquarelle, on a l'impression qu'on produit et ça s'arrête là. On laisse la gravure, c'est pour vraiment incruster et être sûr de ce qu'on a vécu.
Et diffuser largement.
Ouais.
Alors, je voudrais raconter à ce propos, à propos de la gravure, un petit épisode qui est assez révélateur des liens entre l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie de France à Madrid. Lors de la visite rituelle d'une petite délégation d'académiciens en mars dernier, visite des ateliers lors de la visite de l'atelier de Naja, les deux graveurs, donc c'était Pierre Collin et Astrid de la Forêt, ont beaucoup dialogué avec Naja qui était en train d'expérimenter et ils se sont donné rendez-vous à l'atelier le lendemain parce qu'ils partaient le lendemain et c'était beau de voir cet échange de conseils techniques. Ils sont allés ensemble à l'atelier de gravure et c'était merveilleux. Enfin...
Oui, j'étais dans un stade où certains dessins, j'arrivais pas vraiment à trouver leur aspect en gravure. Donc, ils m'ont conseillé de travailler directement avec l'acide. Ça, j'avais jamais imaginé que je vais peindre avec l'acide ou de mettre un pinceau et puis faire la morsure sur l'aquatinte. Donc, c'est venu et ils étaient en énergie incroyable, Astrid et Pierre Collin. On a travaillé tous les trois dans l'atelier et puis les résultats sont apparus. Après, j'ai continué à envoyer des photos de mon travail à Pierre et à Astrid quand ils sont rentrés en France.
Et Mathilde Lestiboudois, vous, de votre côté, est-ce que vos techniques de peinture ont évolué ou c'est plus votre imaginaire qui a peut-être évolué?
Alors, un peu, oui, les deux, en fait. Je dirais l'imaginaire, mais aussi la technique de peinture, parce que, entre peintres, on se conseillait beaucoup aussi au niveau des différents matériaux. Et j'ai pas mal expérimenté, en fait, avec des nouvelles techniques lorsque j'étais à la CASA. Donc, oui, en effet, ma pratique a évolué aussi. Au niveau de la technique, oui, par les échanges avec les différents artistes.
Et vous parliez de couleurs tout à l'heure. Est-ce que vous avez des exemples en tête de couleurs qui sont apparues sur votre palette et qui n'y étaient pas auparavant?
Oui, c'est un ton plus rose-orangé qui est visible sur la toile que j'ai exposée à Itinérance, là, qui n'était pas du tout sur ma palette avant. Et puis, j'ai...
Alors, le rose orangé, si je puis me permettre d'interrompre, c'est le spectacle tous les jours renouvelé du coucher de soleil à la CASA.
Oui. C'est vraiment, en fait, la CASA, elle est sur une sorte de petite colline. Et du coup, on a une vue incroyable sur les montagnes et sur le ciel de Madrid. Et en fait, les couchers de soleil sont absolument incroyables. Et. Enfin, je suis presque persuadée que cette couleur-là est apparue grâce à cet aspect visuel que j'avais tous les jours en face de moi. Et alors que avant j'avais des couleurs un peu plus froides, du gris, du bleu, donc c'est des couleurs qui sont encore sur ma palette aujourd'hui, mais j'ai d'autres couleurs qui sont apparues.
Voilà. Nancy Berthier, vous avez été le témoin de toutes ces expérimentations, un œil un peu extérieur, alors que eux sont dans l'effervescence de leur création. L'exposition rassemble donc 13 artistes d'une même promotion. Ce ne sont pas que des travaux juxtaposés, il s'est passé quelque chose durant cette année. Est-ce que, avec ce regard extérieur, quelques fils rouges vous apparaissent, quelques résonances particulières, connivences, et qui disent peut-être quelque chose de notre époque?
Peut-être que l'un des fils rouges, ce serait la fêlure. Ce qui me frappe, moi je suis enseignant-chercheur, donc ma communauté, on va dire, d'origine, même si je travaille sur les arts visuels, c'est celle des chercheurs. Nous avons toujours, même si nous tentons de de penser le contemporain. Nous avons toujours un décalage par rapport au contemporain. Il faut formuler les projets. Il y a des exigences académiques qui mettent de la distance. Ce qui me fascine chez les artistes, c'est la dimension brute de leur rapport au réel et la façon dont ils enregistrent la réalité qui nous entoure comme des sismographes et les fêlures de ce monde qui ont été et qui sont encore, hélas, très palpables aujourd'hui. Elles sont représentées dans ces travaux de façon différente. Ça peut être à travers du figuratif, ça peut être à travers, bon, chez Mathilde, c'est le vide, c'est... On sait ce qu'a été le vide parce qu'on a vécu une pandémie. Donc c'est voilà cette sensibilité très très fine aux choses du monde qui va s'exprimer, qui s'exprime dans cette exposition comme une sorte de condensé, on va dire, de ces regards pluridisciplinaires.
Aujourd'hui, cette résidence est finie déjà depuis plusieurs mois. Ce serait peut-être le mot de la fin pour chacun. En quoi êtes-vous différent aujourd'hui? Puis quels sont vos projets du moment?
D'abord, la période d'après Casa, souvent il y a des dépressions qui passent avec les artistes qui vivent dans une résidence, une aussi merveilleuse résidence. Ça, on
dans
a bien
cocon,
passé.
Un cocon, d'une certaine
ouais,
façon.
Ouais. Donc, j'ai commencé à assembler mes tirages, tout mon travail. Et puis, je regarde à nouveau ce que j'ai fait. J'ai exposé après, au mois d'octobre. Et je vois le résultat. Ce qui est apparemment sûr, que des fois, les résultats d'une résidence, ça apparaît dans... même dans des années après, 5 ans, 10 ans, il y a des choses que j'ai commencé à faire et j'ai pas terminé. Donc la résidence, c'est pas juste une année. Peut-être ça dure les résultats dans 20 ans, peut-être 25, 15 ans. C'est ce qu'on m'a dit, même d'autres artistes.
Le mouvement est en marche. Mathilde Lestiboudois.
Oui, alors moi, pareil, c'est vraiment... aujourd'hui, je porte en moi les souvenirs de cette année-là et je continue à me nourrir de ces souvenirs. C'est pas parce que je suis partie de Madrid que voilà, j'arrête de m'inspirer de l'architecture que j'ai pu voir là-bas. Mon travail continue dans ce sens-là, continue à évoluer aussi. J'ai encore plein d'idées de nouvelles peintures en tête qui ont été... amené par par cette année de résidence et au niveau de mes projets, donc voilà, ça va continuer je pense pendant longtemps et je les montrerai donc à travers mes futures expositions voilà.
Eh bien, un grand merci à tous les trois d'être venus, Nancy Berthier, Mathilde Lestiboudois et Nadja Al-Boukaï. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de découvrir les créations de cette promotion de la Casa de Velázquez au pavillon Comtesse de Caen qui se trouve à Paris, Quai Conti, jusqu'au 5 mars prochain. Merci et à bientôt.
Merci.
Merci. Merci.
Passerelle des Arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.
Canal Académie.